Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Les ministres de l'Intérieur français et tunisiens annoncent la normalisation par la France de la délivrance de visas en Tunisie. Face à l'inflation et une possible hausse des loyers plafonnés à 3,5%, l'inquiétude de l'association Droit au logement en France, le DAL, craint une hausse des expulsions locatives. Nous écouterons son porte-parole Jean-Baptiste Hérault. L'ONU accuse la Chine de possibles crimes contre l'humanité contre les Ouïghours. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme fait état de preuves crédibles de torture et de violences sexuelles. Deux Palestiniens ont été tués lors d'affrontements avec les forces israéliennes. Cela s'est passé dans deux localités différentes de Cisjordanie occupée. Il me semble qu'il y a une relation particulière entre les deux présidents algériens et français. C'est ce qu'indique Rachid Arab, ex-membre du CSA, cofondateur de Plume, une plateforme vidéo dédiée à la culture populaire autour du bassin méditerranéen. Rachid Arab faisait partie de la délégation officielle qui a accompagné le président français la semaine dernière en Algérie. Il sera l'un de nos invités. La rentrée scolaire, environ 12 millions d'élèves ont repris ce jeudi le chemin de l'école. La coopération en matière migratoire et de mobilité au cœur d'un entretien entre les ministres tunisiens et français de l'Intérieur, cela dans le prolongement de la visite en France de la chef du gouvernement tunisien. Gérald Darmanin a fait part à son homologue tunisien de la normalisation par la France avec effet immédiat des modalités de délivrance des visas en Tunisie. L'automne dernier, la France avait décidé de restreindre la délivrance de visas en Algérie, Maroc et Tunisie. Il s'agissait d'inciter ces pays à faire des efforts en matière de coopération et de lutte contre l'immigration illégale. C'est l'une des préoccupations majeures de la population en cette rentrée, la hausse des prix, notamment en France. Face à l'inflation et une possible hausse des loyers plafonnée à 3,5%, l'association Droit au logement fait part de sa vive inquiétude. Le DAL craint une hausse des expulsions locatives. Son porte-parole, Jean-Baptiste Hérault.
La hausse des loyers, elle est là, même si c'est de 3,5%, c'est-à-dire que c'est un peu moins élevé que les prévisions d'inflation, ça va augmenter en moyenne la quittance de loyer de 17 à 18 euros par locataire en moyenne. Hein, donc pour des loyers plus chers, ça fait beaucoup plus. Et l'APL, par contre, elle, va aussi être augmentée de 3,5%, mais là, c'est pas du tout la même somme, puisque l'APL est bien plus faible que le loyer. En moyenne, 8 euros par allocataire. D'ailleurs, beaucoup de locataires ne touchent pas l'APL. Et ceux qui touchent l'APL en touchent de moins en moins. Donc en réalité, la quittance de loyer est de plus en plus élevée pour les locataires. On peut même signaler qu'un nouveau choc va arriver, celui de la hausse des charges tirées par les prix de l'énergie, et donc qui va peser entre 50 et 150 euros par mois supplémentaires, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de locataires qui vont être asphyxiés. Nous, ce qui nous dérange, si vous voulez, dans la période actuelle, c'est qu'en réalité, la solidarité, c'est une demi-solidarité, c'est même, si vous voulez, une forme de charité. Allez, on va vous donner quelques miettes, histoire de calmer le peuple, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas.
Vous demandiez un gel des loyers, hein. C'était votre demande au droit au logement, même une baisse des loyers.
On demande la baisse des loyers, puisque jamais les loyers n'ont été aussi chers, et la meilleure manière de compenser l'inflation pour les locataires, c'est de baisser les loyers. D'ailleurs, dans les périodes difficiles, les périodes des situations économiques très difficiles, notamment dans les périodes de guerre, en France, on a gelé, on a suspendu le paiement des loyers. Et pendant la crise de 29, on avait des loyers qui étaient très très bas. Il y a eu une politique d'encadrement, de restriction sur la rente locative qui n'a jamais été aussi élevée, à la fois dans notre pays, mais au niveau mondial.
Et est-ce que vous craignez aujourd'hui une hausse des impayés qui aboutirait à une hausse des expulsions locatives ?
D'abord, la hausse des impayés va être le fruit, en quelque sorte amer, de la cherté du logement et de la baisse de revenus compte tenu de l'inflation des ménages modestes qui vont serrer de plus en plus la ceinture. À un moment donné, on va faire la queue aux sous populaires. Et à un moment donné, ça ne suit plus parce que l'angoisse, c'est de se retrouver à la rue. Parce que tout le monde sait, quand on n'est pas très riche, qu'on est un peu à la limite. Tout le monde sait que la rue, c'est la mort. Donc la situation, elle est là. C'est que c'est vraiment pile ou face. Et si on ne peut plus payer son loyer, on va tout faire pour payer son loyer. Bon, à part quelques cas qui sont cités de temps en temps dans les réseaux sociaux, histoire de faire la publicité des bailleurs, des pauvres petits bailleurs. Mais en réalité, c'est les locataires aujourd'hui qui souffrent réellement du logement cher, de la crise économique, de l'inflation. parce que c'est les classes populaires qui sont locataires. Et donc, risque d'expulsion, évidemment, augmentation de l'expulsion à la clé. Pour nous, il faut des mesures très concrètes, c'est-à-dire on baisse les loyers, on dit aux bailleurs, bah, écoutez, c'est bon, vous avez gagné de l'argent pendant longtemps, maintenant ça suffit. N'oublions pas que plus de la moitié du patrimoine locatif privé est détenu par 3,5% des propriétaires. Il y a une concentration, si vous voulez, du parc locatif de privé, concentration du patrimoine. Hein. C'est l'effet de l'aggravation, du renforcement des inégalités, de l'enrichissement de la minorité la plus riche. Donc, on doit aujourd'hui suspendre toutes les expulsions locatives, et croyez-moi, il y a une grosse pression, parce que il y a les effets aussi du Covid, les deux dernières années du 2020 et 2021, qui ont été difficiles aussi pour les locataires, et donc les pouvoirs publics ont suspendu les expulsions pour une partie.
Et justement, là, vous demandez de nouveau la suspension des expulsions locatives. Parleriez-vous d'une situation exceptionnelle qui justifierait la reprise de cette mesure ?
Ah, mais absolument, on est dans une situation de guerre économique, si vous voulez, ou une situation de crise très grave. Tout le monde le voit, il y a à la fois une crise économique, une crise géopolitique avec la guerre en Ukraine et ailleurs. Et puis aussi le climat qui se dérègle. Donc tout ça fait qu'on est dans une situation dramatique où il faut redistribuer un peu les cartes. C'est-à-dire il faut donner aux classes populaires, il faut donner de l'oxygène. Et le discours du président Macron, quand il dit qu'il faut payer, sa liberté, ben il faut payer leur liberté aussi de nous exploiter le plus possible. Et c'est ça la question. C'est qu'il faut partager. Là, pour l'instant, ils ne partagent pas.
Vous, au droit au logement, est-ce que vous recevez davantage de messages, de cris d'alarme face à cette situation ?
Ben oui, on a les permanences en peine. On a du mal à suivre. Et il nous faudrait de l'aide, d'ailleurs. Il nous faudrait du monde là, pour répondre à l'afflux dans nos permanences et aider les gens dans leurs démarches, les orienter et ensuite les emmener des actions collectives qui leur permettent d'accéder à un logement social.
Le porte-parole de l'association Droit au Logement, Jean-Baptiste Hérault. L'ONU accuse la Chine de possibles crimes contre l'humanité, contre les Ouïghours. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme fait état de preuves crédibles de torture et de violences sexuelles. L'ampleur de la détention arbitraire et discriminatoire de membres des Ouïghours et d'autres groupes à prédominance musulmane peut constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l'humanité. C'est ce qu'indique le rapport de Michel Bachelet. Michel Bachelet qui vient de quitter le Haut Commissariat aux droits de l'homme après un mandat de 4 ans. Dans ce document, les Nations Unies appellent la communauté internationale à agir d'urgence. Deux Palestiniens ont été tués ce jeudi lors d'affrontements avec les forces israéliennes. Cela s'est passé dans deux localités différentes de Cisjordanie occupée. Un homme a été tué lors de heurts à Al-Biré, ville voisine de Ramallah. Un autre lors d'affrontements à Naplouse. Le président américain appelle les leaders politiques irakiens à ouvrir un dialogue national. Objectif, la résolution de la crise politique en cours. Joe Biden s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre Mustafa Al-Kazimi. Les deux dirigeants ont salué le retour de la sécurité dans la rue après les violences à Bagdad entre les partisans de Moqtada Sadr et les forces de l'ordre. La France va affréter un avion d'aide aux populations sinistrées par les inondations au Pakistan. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères indique qu'il apportera un appui financier à plusieurs ONG et au Croissant Rouge pakistanais. Les inondations dues aux pluies de mousson ont submergé un tiers du Pakistan. Elles ont causé la mort de près de 1200 personnes depuis juin dernier. De larges pans de terres agricoles essentielles à l'économie et plus d'un million d'habitations ont été détruits ou endommagés. Il me semble qu'il y a une relation particulière entre les deux présidents algériens et français. C'est ce qu'indique l'ex-membre du CSA, Rachid Arab, cofondateur de Plume, une plateforme vidéo dédiée à la culture populaire autour du bassin méditerranéen. Rachid Arab faisait partie de la délégation officielle qui a accompagné le président français la semaine dernière en Algérie. Entretien avec Rachid Arab.
J'ai eu l'occasion de faire beaucoup de visites officielles en tant que journaliste il y a quelques années, quand j'exerçais votre beau métier. Donc, je connais un peu l'exercice. Ce qui m'a frappé, c'est qu'en règle générale, ce genre de voyage, tout est réglé à l'avance, les accords sont actés à l'avance. Ce qui qui m'a frappé, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de choses se sont faites sur place et plutôt dans le côté positif, tout simplement parce qu'il me semble qu'il y a une relation particulière et privilégiée entre les deux présidents, entre les deux chefs d'État, et que c'est peut-être ce qui a permis de revenir du voyage d'une façon encore plus concrète que ce qu'on avait pu imaginer avant. Bref, on pensait qu'il n'y aurait pas de contrats mirobolants, etc., comme dans certains voyages officiels. Là, on s'est rendu compte qu'au-delà de la rencontre personnelle entre les deux hommes, il y a eu des échanges, souvent tête-à-tête de ce que je peux en savoir, qui ont fait progresser les dossiers sur le moment, et non pas après le sommet.
Et sur le plan culturel, vous qui avez lancé Plume, une plateforme dédiée à la culture méditerranéenne, quel regard portez-vous sur cette coopération culturelle ?
C'est un des dossiers sur lesquels il y a à l'évidence le plus de choses à faire et à réaliser, mais c'est en même temps certainement à côté des dossiers économique, politique, géopolitique, très nombreux, parce que ce voyage, c'était aussi et avant tout ce genre de dossier qui était traité, mais l'aspect culturel, l'aspect relationnel, l'aspect humain, tout simplement, j'en reviens à ça, me semble être le terrain sur lequel il y a le plus de progrès possible, tout d'abord parce qu'il existe énormément de relations. Il y a un dossier particulier entre la France et l'Algérie, c'est que ce sont des relations humaines. Il y a une communauté de binationaux qui est certainement la plus importante au monde, qui fait que ces personnalités-là se connaissent, mais ne se rencontrent pas souvent. Et c'était l'occasion pour moi et pour beaucoup d'autres de les rencontrer, de parler de projets, de présenter nos projets respectifs et de nous situer dans un mouvement créatif.
Cette culture populaire que vous mettez en lumière à travers Plume, elle a été mise en lumière justement lors de ce voyage.
Oui, ça fait partie des sujets, j'allais dire, les plus sur lesquels on pourrait atteindre rapidement des résultats visibles, tout simplement parce que, je le répète, il existe déjà des entreprises, des start-up qui travaillent sur la question de la culture. Mais à côté de ça, il y a un bassin de population tout simplement extraordinaire. Quand vous regardez les différents secteurs de la culture, ce que j'appelle l'entertainment au sens anglo-saxon, ça va de la musique au sport, en passant par la gastronomie, les arts plastiques, on se rend compte que dans tous ces secteurs-là, il y a déjà des deux côtés de la Méditerranée des personnalités extrêmement imposées dans leur création, mais qui manquent souvent de visibilité et qui manquent souvent de la possibilité d'aller partager dans leur autre pays cette compétence, cette connaissance. Et ce qui me paraît vraiment important dans ce voyage-là, c'est qu'on commence à cesser de faire des relations simplement nord-sud, mais que ceux qui créent au sud puissent aussi être connus, reconnus de ceux qui créent au nord.
Ces personnalités qui peuvent être un pont entre les deux rives de la Méditerranée ?
C'est toujours les êtres humains qui font les ponts, avant tout. Les entreprises le font, le feront, mais tous les ponts passent par la relation humaine. C'est très très important. Et puis vous le savez, hein, nous sommes deux peuples méditerranéens. Nous sommes des peuples tactiles, on a besoin de se toucher, de se connaître, de s'embrasser pour essayer de faire des choses ensemble. Et c'est vrai que l'intégralité de la relation repose avant tout sur la relation de confiance humaine. C'est une relation d'homme à homme, de femme à femme. Et c'est certainement notre plus grande chance, parce que c'est rare que deux pays puissent se connaître aussi intimement. Dans les relations internationales, on a souvent des relations un peu attendues, un peu diplomatiques. Là, ce sont des relations humaines. Ce sont des gens qui vont, qui viennent, qui connaissent les deux pays et qui s'y sentent à l'aise dans l'un comme dans l'autre. C'est une telle exception mondiale que je pense qu'il faut cultiver ça.
C'était une visite importante aussi pour les jeunesses des deux pays, de la France et d'Algérie.
Oui, parce que ce sont ces jeunesses-là, d'abord, c'est pour elles qu'il faut préparer l'avenir. C'est elles qui sont en train de le faire aussi, chacune de leur côté, on pourra en parler très longuement. Et notamment, moi je suis frappé depuis que j'ai préparé le projet Plume, de voir à quel point la jeunesse algérienne notamment est d'une créativité en matière de digital notamment. C'est une jeunesse extrêmement connectée, peut-être plus que ça n'est le cas au nord de la Méditerranée. Ce sont des jeunesses qui communiquent déjà par le biais des réseaux sociaux, qui partagent déjà beaucoup de choses en matière de culture. Je prends toujours le même exemple pour essayer d'illustrer mon propos. Quand Dizzy Snake réalise son clip, que vous avez certainement vu, Disco Maghreb, c'est un clip qui a été tourné en Algérie, autour de la musique Rai, mais c'est un clip qui, quand il fait le tour du monde, puisque quand il est sorti de ce clip, Jesus Snake a enregistré plus de 80 millions de vues dans l'immédiat. Et dans le monde entier, du Japon aux États-Unis, en passant par la Chine, on a vu ce clip comme étant une production méditerranéenne. Et je pense que c'est ça l'influence que nous sommes en train de créer. Je ne sais plus, mais on est convaincu que nous assistons à un bouleversement des tendances culturelles et qu'après les grosses influences anglo-saxonnes qui continuent d'être là, d'être menaçantes, il y a une influence de ce qu'on appelle la pop méditerranée qui est en train de s'installer. Tout simplement parce que c'est une réalité, là aussi. Les artistes dont on parle, on a parlé de Jesus Snake, mais on pourrait parler de gens du cinéma, de gens du sport également, les personnalités du sport, les footballeurs notamment, mais pas seulement, sont déjà des ambassadeurs des deux pays. Beaucoup de joueurs de l'équipe nationale d'Algérie ont la binationalité. Donc ces ponts, ils existent en matière de culture, tout simplement, parce que on ne peut plus arrêter les idées, on ne peut plus arrêter les hommes. Ils vont, ils viennent, ils créent.
Ce qui se déroule en France est régulièrement mis en avant, en perspective dans la presse algérienne. C'est moins le cas de l'autre côté. Est-ce que c'est en train de changer?
Je l'espère. Je pense effectivement qu'il y a encore un bilatéralisme un peu à sens unique. C'est vrai que de ce côté-ci de la Méditerranée, on a tendance, en règle générale, à parler des populations de la diaspora comme étant plus des populations à problème que des populations à solution. Mais bon, chacun fait son bout de chemin. Moi, j'essaye à mon niveau, depuis le début de ma carrière, de faire en sorte que quand on parle de mes origines et en même temps de mon appartenance à la France, on en parle bien.
Rachid Arab, auteur, ex-membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, cofondateur de Plume. La rentrée des classes, ce jeudi en France, environ 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Les 6 millions d'élèves du primaire devront désormais pratiquer 30 minutes de sport chaque jour à l'école. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programmes à l'écoute de Radio Orient.